Aujourd'hui, en Occident, on a constamment bombardé par des mauvaises nouvelles de toutes sortes. Et ceux qui nous gouvernent mentent comme ils respirent. Alors les gens, dans leur grande majorité, sont tellement blasés que plus rien ne les émeut ou les surprend. Mais il n'en est pas ainsi au premier siècle, quand le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain. À la lecture du livre des Actes, on découvre que rares sont les personnes qui restent indifférentes à l'écoute de l'apôtre Paul. Soit ses auditeurs acceptent le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, soit ils tentent de le faire taire d'une manière ou d'une autre. Mais malgré des difficultés qui n'en finissent jamais, Paul, tel un rouleau compresseur, poursuit son ministère d'évangéliste. Parfois, il doit s'enfuir au plus vite pour échapper à ses agresseurs. Mais rien ne l'arrête. Sa dernière échauffourée a eu lieu quand les fabricants d'objets religieux l'ont traîné devant l'administrateur de la ville, mais ce dernier a très étroitement réussi à calmer le jeu de cette manifestation et elle s'est dispersée. Malgré tout, l'apôtre ne veut pas être la cause de nouveaux troubles. Et comme il sent que son ministère à Éphèse est terminé, il en profite pour rassembler les frères afin de les saluer avant son départ, qui est donc quelque peu précipité. Je commence à lire le chapitre 20 du livre des Actes. Quand le tumulte fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager, puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions d'encourager les croyants. De là, il passa en Grèce et y demeura 3 mois. La Grèce est un autre nom pour l'Achaïe, dont la principale ville est Corinthe. Luc couvre bien brièvement cette portion du voyage de Paul. Dans ses lettres, l'apôtre nous donne davantage de détails. Nous savons qu'il a rendu visite à toutes les églises qu'il avait implantées en Grèce, dont Corinthe, où il séjourna pendant 3 mois, et d'où il a écrit l'épître aux Romains. Cela dit, il est possible que Paul soit allé jusqu'en Illyrie, une province romaine qui correspond en gros à l'ancienne Yougoslavie. Je continue. Au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il apprit que les Juifs avaient formé un complot contre lui. Il décida alors de repasser par la Macédoine. Paul veut s'embarquer pour Antioche de Syrie, afin de se rendre à Jérusalem. Mais alors qu'il est sur le point de quitter Corinthe, il avant d'un complot. Manifestement, les Juifs ont prévu de l'assassiner sur le bateau et de jeter son corps aux requins. C'est toujours le même refrain, les Juifs veulent faire la peau à l'apôtre. Paul abandonne donc son projet d'aller à Jérusalem et se rend dans la ville de Philippe par voie de terre. Aujourd'hui, ce trajet prend 9 heures en voiture. Alors à pied, ça fait loin. Je continue. Ses compagnons étaient Sopater, fils de Pyrrhus, originaire de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée et enfin Tychique et Trophine de la province d'Asie. Ils prirent le vent pour aller nous attendre à Troas. Quant à nous, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain et après une traversée de 5 jours. Nous les avons rejoints à Troas et nous avons passé une semaine. L'auteur, Luc, accompagne de temps en temps Paul, mais il était resté dans la ville de Philippe, tandis que l'apôtre avait continué son précédent voyage. Cette nouvelle section du livre a « nous » pour sujet, ce qui montre que les deux hommes sont à niveau ensemble parce que le texte passe de la première personne du pluriel. À cette époque, on est dans la deuxième moitié du premier siècle, les chrétiens de Jérusalem sont dans la disette à cause d'une famine que Luc ne mentionne pas. Cependant, Paul a organisé une vaste collecte en faveur des croyants de Judée auprès des chrétiens de Grèce, c'est-à-dire de Macédoine et dans l'Achaïe. Les 7 personnes mentionnées sont des compagnons de ministère de l'apôtre. 3 sont originaires de Macédoine et 4 d'Asie mineure. Ils accompagnent Paul parce que ce qui touche à l'argent est toujours délicat et puis il s'agit d'une forte somme. De plus, les routes ne sont pas sûres. Les Juifs essaient constamment de tendre des pièges à l'apôtre et il faut que tout se fasse au-dessus de la table pour ne pas donner l'occasion aux mauvaises langues de cracher leur venin. Voilà comment Paul s'est probablement organisé. Il demande à son escorte de prendre les devants et de l'attendre à Troas, alors que lui passe les fêtes de Pâques dans la ville de Philippe en Macédoine, auprès de croyants qui avaient beaucoup d'affection pour lui. Puis l'apôtre est parti avec Luc, et peut-être aussi d'autres frères, pour rejoindre les 7 compagnons à Troas. La traversée de Néapolis, le port le plus proche de la ville de Philippe, jusqu'à Troas, un port au nord-ouest de la Turquie, aurait duré 2 jours. Mais on a pris 5, parce que les vents étaient sans doute contraires. De Troas, toute la troupe est allée jusqu'à Myée, qui est un port de mer à 60 kilomètres au sud d'Éphèse. C'est là que plus tard, il quittera Trophime malade. Je continue. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Les croyants de l'Église primitive se réunissaient le dimanche, parce que c'était le jour de la semaine où Jésus était ressuscité des morts, et aussi le jour où il s'était montré vivant pour la seconde fois aux apôtres, une semaine plus tard. De plus, c'est aussi un dimanche que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, et qu'ainsi l'Église est née. C'est le jour de la Pentecôte. Cette réunion se prolongeait tard dans la nuit, parce que c'est la dernière fois que Paul est en compagnie de ses croyants. Le but principal de leur réunion est de rompre le pain ensemble. Pour un groupe de chrétiens, cela signifie commémorer la mort du Seigneur en prenant du pain et du vin d'une manière très solennelle. Je continue. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Éticus s'était assis sur le rebord de la fenêtre et, comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Il se fait tard et la fatigue d'une journée de travail pèse lourdement sur les paupières. L'atmosphère chaude du dehors et la présence de beaucoup de monde dans une même pièce éclairée par des lampes à pétrole contribuent à créer une ambiance soporifique parce que l'oxygène est raréfié. Il fait lourd, même avec une fenêtre ouverte. Paul, celle qui ne reverra pas ses frères de Troas. Alors, il vide son cœur et enseigne sur des sujets théologiques pas très faciles à comprendre. Le son de sa voix finit par endormir le jeune homme de cette histoire, et c'est le drame. En tombant, il a dû se fracasser la tête ou la colonne vertébrale. Bref, il est mort, ce que confirme Luc, qui est médecin. Je continue. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il revient à la vie. » Il remonta, rompit le vin, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne au grand réconfort de tous. Heureusement pour ce jeune homme, son nom Eutychus signifie « chanceux ». En effet, il a eu de la chance de mourir en présence de Paul qui l'a ressuscité des morts. Ce texte est le pendant de celui qui raconte que l'apôtre Pierre a ressuscité une femme du nom de Dorcas. Ce retournement de situation encourage Paul et poursuit son enseignement jusqu'à l'aube. Moi, j'admire les gens qui sont restés à l'écouter jusqu'au petit matin. C'est sûr que Paul devait avoir des choses captivantes à dire, mais quand même, passer toute une nuit à rester alerte pour suivre un orateur, il faut le faire. Je continue. Pour nous, nous avons pris les devants et nous sommes embarqués sur un bateau qui nous a emmenés à Assos, où nous devions prendre Paul conformément à ce qu'il avait décidé, car il voulait faire la route à pied jusqu'à là. Quand il nous eut rejoints à Assos, nous avons repris la mer ensemble. Après une escale à Mytilène, nous avons passé le lendemain au large de Chios. Le jour suivant, nous jetions l'ancre à Samos et, un jour plus tard, nous abordions Myet. Une fois le soleil levé, Paul est parti après une nuit blanche. L'ardeur de son âme annule sa fatigue. Manifestement, il est resté à Croise plus longtemps qu'il ne l'avait prévu et a hâte de continuer sa route. Il ordonne au groupe de l'accompagner d'aller à Assos en bateau, un trajet de 50 km, tandis que lui s'y rend par voie terrestre, ce qui fait 25 km à pied. Il semble que l'apôtre éprouve le besoin de solitude. Il veut être seul avec le Seigneur. C'est aussi un besoin fréquent de Jésus. Ils se retrouvent à Assos, où ils prennent tous le bateau, faisant successivement escale à Mylène, Chios et Samos, trois îles de la mer Égée à l'extrême ouest de la Turquie actuelle. Elles portent encore les mêmes noms aujourd'hui. Chaque voyage dure un jour. Le groupe vogue vers le sud en direction de la Méditerranée, puisqu'il se dirige vers la Palestine. Finalement, il débarque à Myet, dans le sud-ouest de l'Asie Mineure. Je continue. Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem, si possible, le jour de la Pentecôte. Pendant l'escale à Myet, il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Paul voulait absolument être à Jérusalem pour la Pentecôte afin de retrouver tous les chefs de l'Église judéo-chrétienne. Il a donc évité Éphèse. En effet, suite aux trois années qu'il a passées dans cette ville, il y comptait tellement d'amis qu'il n'aurait pas pu s'y arrêter sans leur consacrer beaucoup de temps. Il demande donc aux anciens de l'Église de venir le voir. Au temps des apôtres, il existait une pluralité d'anciens dans chaque Église. Ceux-ci avaient la charge d'évêques, c'est-à-dire de surveillants. Ils ne formaient pas un ordre sacerdotal distinct d'un membre régulier. Le clergé, en tant que tel, a été créé au cours du second siècle après le martyre de l'apôtre Paul. Pierre et Jacques, on suppose que les églises ressentaient le besoin d'une supervision générale, ce qui a amené la création d'évêques diocésains. Je continue le texte. Quand ils furent arrivés après lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous ? Depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. » Ici commence un discours pastoral de l'apôtre Paul qu'il adresse aux responsables de l'église d'Éphèse pour qui il a beaucoup d'affection. Il leur rappelle son enseignement et sa façon de vivre. Et quel exemple d'humilité et de compassion il a été. Les larmes d'un homme fort et immense comme Paul pénètrent le cœur comme des poignards. À Éphèse comme ailleurs, les Juifs complotaient contre Paul. De point de vue humain, sa vie ne tient qu'à un fil. Mais de notre côté, l'apôtre immortel tant que Dieu choisit de se servir de lui. Et il le sait très bien. Ce qui compte est qu'envers et contre tout, Paul a été remarquablement fidèle à son maître. Il a exposé tout le conseil de Dieu pendant 3 mois dans la synagogue d'Éphèse, 2 ans dans l'école de Tyrannus, sans compter son enseignement dans des réunions publiques et dans des assemblées maison. Je continue. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me verrez plus. Ce discours est touchant par la profondeur des sentiments qui l'animent, par le courage héroïque de l'apôtre et parce qu'il révèle que le ministère que le Seigneur lui a confié lui est infiniment plus précieux que sa vie. Paul est convaincu qu'il ne verra plus aucun des anciens de l'église d'Éphèse, car il a été averti en son fort intérieur par le Saint-Esprit, ainsi que par des frères qui possèdent le don de prophétie, que de graves difficultés l'attendent à Jérusalem. Mais il est déterminé à s'y rendre, parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre met sur le même plan, d'une part, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, et d'autre part, le règne de Dieu sur terre, ce qui était l'espérance d'Israël promise par l'Éternel et annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. En d'autres mots, dans sa grâce, le Seigneur accorde aux non-juifs de croire en Jésus, ce qui leur confère le privilège d'avoir la vie éternelle et d'entrer dans le règne millénaire du Christ. Je continue. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Tout au long de ses discours aux responsables de l'Église, Paul utilise différents mots pour exprimer qu'il avait prêché, annoncé et solennellement témoigné à tous, juifs et grecs, tout le conseil de Dieu sans rien omettre. Sa conscience est pure et pour cette raison, il est dégagé de toute responsabilité morale et spirituelle envers tous les habitants d'Éphèse, juifs et païens. Je continue. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. Maintenant, Paul considère les responsabilités des anciens d'Éphèse. Ils doivent premièrement prendre garde à leur âme, à eux-mêmes, à leur vie chrétienne, puis à ceux qui sont sous leur protection de la même manière qu'un berger s'occupe de ses brebis. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est souvent comparé à un troupeau. Ici, ses dirigeants sont appelés évêques, le mot qui en français a donné « épiscopal ». Les Grecs l'utilisaient pour bien souligner la responsabilité attachée à une fonction. Ici, cela consiste à veiller sur les autres, sur le troupeau du Seigneur. Sa grande valeur est soulignée par Paul, qui l'appelle « Église de Dieu » ou « Église du Seigneur ». Selon les manuscrits, et qui mentionnent qu'elle a été acquise par son sacrifice, il s'agit bien entendu de la croix sur laquelle, en s'offrant lui-même, le Christ a expié les péchés. Comme c'est par son sacrifice que Jésus s'est acquis cette Église, elle est sa propriété exclusive, ainsi que celle de Dieu, bien entendu. Je continue. Je le sais, Quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que, pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. L'histoire révèle qu'au fil des années, les fausses doctrines qui se sont introduites dans les églises chrétiennes venaient parfois de l'extérieur, mais le plus souvent de l'intérieur, de faux frères. Ce sont des gens orgueilleux, généralement charismatiques, et qui, bien sûr, disent parler au nom de Dieu. Mais en réalité, ce sont des loups cruels. Les anciens d'Éphèse doivent maintenant suivre l'exemple de l'apôtre qui a œuvré avec larmes. Larmes de joie, de douleur, de pitié, d'angoisse et d'amour. Ce sont elles qui ont gagné les cœurs au Seigneur. Je continue. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Paul n'agit jamais avec des raisons personnelles. C'est un pur, un vrai, comme il en existe peu. D'après plusieurs passages, on voit qu'il a souvent travaillé de ses mains pour subvenir à ses besoins, et on apprend ici aux besoins de ses collaborateurs. Parfois, Paul recevait des dons qui lui permettaient d'œuvrer à plein temps pour le Seigneur. Finalement, l'apôtre recommande ses bergers d'Éphèse à la grâce de Dieu et à sa parole. Bien que la confiance en Dieu est essentielle, elle doit aussi s'accompagner de l'obéissance, ce que l'apôtre leur rappelle. Je finis le chapitre 20. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'il ne le reverrait plus. Puis ils l'accompagnaient au bateau. La parole du Seigneur que Paul cite n'a pas été conservée dans les évangiles. Mais combien elle est vraie ! Le serviteur de Dieu est le plus heureux quand il se met corps et âme au service de ceux que Dieu lui a confiés, même s'il doit s'imposer des privations et des fatigues. C'est à genoux et dans la prière que se terminent les adieux de l'apôtre au responsable d'Éphèse. La séparation la plus douloureuse est ainsi adoucie par la communion dans l'amour de Dieu et le lien indissoluble entre ceux qui partent et ceux qui restent. Une vive affection liait ces hommes, et dans la suite du récit de Luc, on voit plusieurs fois des expressions affectueuses semblables à l'écart de l'apôtre. Quel contraste avec les juifs fanatiques qui cherchent continuellement à l'assassiner. Par contre, d'une manière générale, les païens reconnaissent en Paul ce qu'il était, un très grand homme. En fait, par rapport à tous les autres, même au plus grand, il est comme un séquoia qui s'élève à 150 mètres de haut au-dessus de tout petit bosquet.